So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène? Quel est son champ d'action? Que raconte-t-il encore de notre monde? Comment se renouvelle-t-il? Je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre, tout simplement. Cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Aujourd'hui, je rencontre Hugues Duchesne, comédien, dramaturge, metteur en scène, qui monte avec sa troupe Le Royal Velours, une série théâtrale documentaire sur l'actualité du mandat d'Emmanuel Macron, duquel il nous livre sa vision et dont il est aussi le narrateur. La pièce s'appelle « Je m'en vais, mais l'État demeure ». Elle est en 6 épisodes. C'est une analyse réjouissante et fine du lien entre le peuple et le pouvoir à notre époque. Et vous pourrez la suivre en tournée cette saison. Je suis en train de monter les escaliers de l'immeuble de Hugues, qui m'a proposé de venir faire l'interview dans sa cuisine. Et comme on ne dit jamais non à une improvisation, eh bien, j'ai mis en route le micro avant même d'arriver chez lui.
Salut !
Ça va ?
Ouais, ça va.
Tu veux du café ?
Ouais, je veux bien. Non. Alors, je vais te dire un peu ce que j'ai préparé sur toi.
Ok.
J'ai écrit un petit texte.
Ouais, vas-y.
Parce qu'en fait, ton personnage me plaît.
Merci.
Et t'as quelque chose qui réfère du vieux monde, enfin, ce que j'appelle le vieux monde. C'est-à-dire une inscription dans l'histoire du théâtre européen, peut-être un peu hétéronormée, proche de la comédia dell'arte ou de la fable satirique. Et en cela, tu es facilement identifiable, je dirais. Et en même temps, t'assumes une forme documentaire, un rapport à l'individualité très contemporaine, une sorte d'anti-héroïsme de gauche flirtant entre la figure du journaliste, celle du youtubeur. Tu déjoues les codes, en même temps tu utilises des outils très simples de la scène. Ton travail est intelligent, malin, instinctif, audacieux, je dirais. T'es comédien, metteur en scène. T'écris des spectacles dans lesquels tu te mets en scène face à l'actualité et le monde qui t'entoure, avec une équipe d'acteurs que tu as rencontré quand tu étais académicien de la Comédie Française, parce que la Comédie Française accueille chaque année des jeunes qui sortent des écoles nationales de théâtre. Il y en a une dizaine en France. Disons que c'est une sorte de parcours prestigieux, bien que peut-être un petit peu poussiéreux, on verra, qui permet d'entrer dans un réseau institutionnel. Et puis pour finir, et après je te donnerai la parole, après ce petit speech un peu sérieux, je dirais que ton parcours est intéressant, parce qu'il se fait à la fois reflet, symptôme et questionnement de la place et de l'utilité du théâtre dans cette société en pleine mutation. Et justement, c'est ça qui m'intéresse.
Déjà, la poussière de la Comédie Française, c'est un peu facile.
Un peu facile, j'avoue.
Mais oui, et en même temps, tu sais quoi ? Mettre une perruque Louis XV pour jouer dans un petit Mario, c'est pas désagréable. Et je crois qu'on comprend pas mal de trucs sur les textes et les façons de les dire en ayant une grosse perruque sur la tête. Parce qu'évidemment, si t'as une perruque du temps de Louis XIV, enfin, 17e siècle, on va dire, et qui te pèse sur la tête, bien sûr que tu n'as pas le même port de tête, tu n'as pas la même façon de te mouvoir, et donc l'alexandrin a quelque chose d'un coup tellement évident. Et parce que si jamais tu bouges la tête, il y a la perruque qui bouge avec, ça te tire les cheveux. Donc t'adoptes un style. Bref, il y a deux, trois trucs dont j'ai pu me rendre compte cette année-là, quand bien même, évidemment, j'ai dû mettre deux, trois fois des perruques sur, une vingtaine de spectacles, et le premier spectacle dans lequel j'ai joué à la Comédie Française, c'était un truc qui s'appelait Comme une pierre qui, et un spectacle sur Bob Dylan, le moment où Like Rolling Stone a été enregistré, et on jouait des musiciens qui enregistrent petit à petit, et c'était marrant. Et donc évidemment, c'était le premier spectacle de la première saison d'Eric Ruff, et tous les journalistes sont venus voir le spectacle en disant « Oh, le rock arrive, le rock entre à la Comédie Française, tu vois ». Tout tracé, mais c'est comme ça. Donc il y a à la fois la poussière et un endroit, elle existe, et c'est de la poussière 1680, et du coup t'as pas forcément envie de souffler dessus parce que peut-être que c'est de la pourriture noble, et en même temps on aurait tort, et la Comédie Française est en train de changer d'image, et Ruff fait du bon boulot, je crois, et l'équilibre n'est pas évident à trouver, parce que l'année avant qu'Eric Ruff soit au Français, devienne directeur, il y a un D.A. Lauer qui a eu un énorme flop dans la salle Richelieu. Et quand il manque 400 personnes dans la salle, ça fait un trou dans les caisses, et il faut faire attention à ça. Donc c'est tout un équilibre qui cherche petit à petit, et voilà. Et donc j'aurais tendance à beaucoup défendre ce lieu, mmh. où par ailleurs j'ai rencontré des gens avec qui je travaille, mmh. et que j'aime beaucoup, et que j'ai pas choisi. C'est les cinq autres acteurs de base du Royal Velours, Laurent, Mariana, Vanessa, Pénélope et Théo, c'est des gens qui étaient avec moi. C'est rajouté très vite Gabriel Thur, que j'avais rencontré sur de Bob Dylan. Aujourd'hui, il y a deux acteurs qui ont remplacé, qui font un remplacement en ce moment, et qui reviendront sûrement l'année prochaine, en alternance. Du coup, on adopte finalement le même système qu'à la Comédie Française, où quand un sociétaire cède sa place, et du coup, il y a une alternance qui se fait. Et donc Robin et Juliette qui nous ont rejoints cette année, et je les ai choisis aussi parce qu'ils étaient passés à l'Académie de la Comédie Française, c'était cool.
C'est marrant, parce que quand on voit les spectacles, après peut-être que tu me rediras juste un petit peu le processus et le concept de je m'en vais mais l'état demeure, pour qu'on comprenne un peu, mais... C'est-à-dire que tu as cette tradition et ce respect pour la tradition de la Comédie Française qui est une sorte d'école aussi.
Ouais.
Et en même temps, quand on voit tes spectacles, ça réfère beaucoup à un théâtre de très tôt, en fait.
Ouais.
Et même moi, je penserais à quelque chose, j'irais même jusqu'à évoquer les Guignols, en fait.
Ouais.
Tu vois, avec quelque chose qui est beaucoup dans l'humour, la satire. Et du coup, c'est peut-être aussi ce mélange-là qui crée une forme de spécificité... un peu particulière, mais tu peux nous rappeler un peu aussi.
Je m'en vais, mais l'état demeure. C'est un carré de lumière, des chaises sur le côté, des accessoires encore sur le côté, et des petites lunettes, pas trop de perruques parce que ça coûte cher. À partir du moment où t'es dans la lumière, t'es dans l'air de jeu, tu sors de la lumière, tu mets un chapeau, tu reviens dans la lumière, t'es un autre personnage. Ça se joue avec une idée où effectivement théâtre de très tôt, pourquoi pas, revue théâtrale, effectivement, les Guignols de l'info, comme on parle de politique et qu'il y a de l'imitation, on fait avec ce qui a été pour ma génération très très important, les Guignols. On peut pas imiter Jacques Chirac sans aussi penser à sa marionnette, et c'est le cas pour plein d'autres marionnettes. Là, ce qui est intéressant avec le personnage de Macron, c'est que personne ne l'imite bien en France. Et qu'il n'y a plus les Guignols.
Et les Guignols n'existent plus.
Et donc, on compose... Enfin, Théo a beaucoup de mérite de chercher une bonne imitation de Macron.
C'est justement une société qui n'imite plus ou qui ne se moque plus des puissants. C'est un peu inquiétant, ça, non ?
Non, oui, ça me dérangerait pas que plus personne ne se moque de... Je me dis pas du tout le Royal Velours, c'est fait pour c'est utile, ça a du sens, je le fais parce que on a besoin de gens qui se moquent dans la société, tu vois, non, si je voulais vraiment faire un truc utile dans la société, politiquement, changer les choses, je ferais des vidéos sur YouTube, ça me prendrait moins de temps et ça toucherait beaucoup plus de monde. Donc j'ai cette idée de que ce qu'on fait n'est pas bien utile et qu'on le fait parce que on aime le faire.
Donc, pourquoi le théâtre ? Parce qu'on aime le faire.
Ouais, parce qu'on aime le faire et parce qu'on a envie de faire un truc qui artistiquement nous satisfasse. J'essaie de faire du bon théâtre. Il n'y a pas un théâtre, il y a des théâtres et je cherche le mien. J'avais vu cette phrase à l'école au Vrai nos Rois. Enfin, tu vois, j'avais juste passé le concours, mais je me souviens de cette phrase.
Qui est l'auteur de cette phrase ? C'est pas Peter Brook ?
Moi, je sais rien.
Ou l'un de ces grands maîtres.
ouais, dont on se précipite pour voir les pièces à chaque fois qu'il y en a une. Mais tu veux du sucre ?
Ouais, je veux bien. Pourquoi le théâtre n'a pas encore disparu de cette société ?
Tu vois, les fictions France Inter, c'est toujours atroce. C'est toujours nul. Personnellement, je déteste ça. parce que ça fait toc, ça fait faux. Enfin, vraiment, il n'y en a pas une qui me dit, ah tiens, je vais m'écouter cette petite fiction France Inter, j'aime bien. Enfin, y a Benjamin Habitant fait des trucs un peu intéressants quand il est tout seul avec son micro et qu'il imagine, il fait comme s'il était chez le psy et que le psy s'est endormi. Ça marche un peu parce que c'est très personnel. Mais dès qu'on fait croire à une fiction, ça marche pas. Or, au théâtre, ce qui est cool, ce que disait Sébastien Poudroux une fois, le mec qui jouait Bob Dylan dans Bob Dylan, tu te lèves, tu regardes le public et tu dis « Je suis prix Nobel ». Ouais. Tu fais un petit mouvement de sourcil de « Et ouais, je n'en reviens pas moi-même ». Et ça marche. Et les gens se disent « Ok, d'accord, c'est le prix Nobel de littérature dans la pièce qu'il a fait sur Christophe Honoré ». Et c'est tout, et on a le droit.
Tu veux dire que c'est l'espace des possibles, quoi.
C'est ça. Ça
l'imaginaire peut se renouveler en permanence, où il y a une sorte de pacte d'illusion entre le spectateur et l'acteur, et allons-y ensemble, quoi.
Ouais, c'est exactement. Alors que si tu regardes la même chose à la télé, tu te dis, il est pas très bien en prix Nobel, lui, ou à l'oreille, dans une fiction France Inter, ou France Culture, ou peu importe. C'est ce que nous permet la scène et c'est ce que j'utilise, j'use et j'abuse dans
donc c'est la présence.
Ouais,
c'est le jeu en présence.
Ouais, après il n'empêche qu'on peut être bon, pas bon dans un rôle, voilà, on peut être plus ou moins convaincant, mais le pacte il existe.
Et par rapport au statut du journaliste, parce que tu as une manière de faire qui est un petit peu. Qui est très journalistique, en fait, même tu te fais passer pour un journaliste de temps à autre.
Ouais.
Est-ce que. Si tu avais l'impression d'avoir une mission qui irait complètement vers le journalisme et c'est finalement quelque chose de ludique qui te garde au théâtre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus relié à la liberté ou...
C'est la liberté d'expression. Justement, parce que on touche de 100, de 50 personnes dans la salle à 600, 700 personnes si tu joues dans une très grande salle. Comme à l'heure de Twitter, tu pourrais toucher tellement plus de monde en très peu de temps que tu as une liberté d'expression qui est très grande. Moi, c'est ce que j'aime au théâtre. Je me sens totalement libre. Alors que je ne ferais pas la même chose si je faisais une vidéo sur Internet.
Tu penses qu'il y aurait plus d'autocensure ?
Totalement. Et je me permettrais pas de transformer la réalité pour la rendre plus juste. Je flouterais des visages sur certaines vidéos que je passe publiquement sur...
Donc on revient à la question de l'instant, en fait. Du fait que la particularité du théâtre est qu'il est perpétuellement éphémère, qu'il est perpétuellement en train de mourir et de ressusciter, et que justement, ce qui se dit... dans l'enceinte du théâtre est partagé par un même espace-temps. Donc du coup, il y a moins de possibilités de malentendus ou d'interprétation, peut-être.
Ouais, enfin, quand tu causes avec les spectateurs, tu vois toujours une petite différence entre ce que tu as voulu dire, ce qu'ils ont entendu, leur besoin d'en savoir plus. Enfin, il y a toujours un écart, mais je dois pas détester la communion. Ouais, c'est beau. Quand il y a 5 ou 6 rappels et qu'on est heureux que les gens, tu vois, sont restés longtemps dans une salle.
Donc
et
là, qu'ils restent encore. D'évoquer quand même le rapport au sacré, tout d'un coup.
Ouais. Ouais, je crois que mon père aimait beaucoup le rituel de la messe. Moi, je suis jamais allé là-dedans, mais je peux effectivement imaginer très facilement qu'il y a, un certain plaisir à ce rituel. C'est ambivalent parce qu'on peut se sentir vraiment enfermé à la messe et en même temps, en acceptant le rituel, tu peux y trouver un réconfort de chaque chose est à sa place. Comme l'expérience théâtrale peut être, comme on dit, une prise d'otage peut être un endroit où, chaque chose, tout va bien. Et on va regarder le misanthrope, mise en scène Clément Hervieux-Léger, ça va durer longtemps, mais on sait que les gens vont suivre un texte qui a été écrit il y a 300 ans, et petit à petit.
Donc c'est rassurant.
Oui, c'est rassurant. C'est rassurant de dire, voilà, on sait comment ça a commencé, on sait à peu près comment ça va finir.
Tu penses que les gens qui aiment et qui choisissent le théâtre ont quelque chose avec la volonté de maîtrise et de contrôle absolu des choses et du réel, quelque part?
Ouais. Le contrôle et à la fin, laisser faire, parce que il y a bien un moment où on ne contrôle plus. Et où l'acteur, quand bien même t'es metteur en scène, est roi. Et quand bien même je suis sur le plateau avec des acteurs et qui peuvent se sentir assez facilement fliqués. Mais moi, mon théâtre est très musical parce que j'ai une famille de musiciens. La question du rythme et voire même des intonations, de la mélodie des mots, est presque aussi importante que le sens que je veux y donner.
Est-ce que t'as eu des muses?
Non.
Des mentors?
Oui, des mentors. Enfin, j'ai des gens dont j'admire le travail. Nicolas Lambert, d'un point de vue sur le théâtre et la politique. Les trois pièces qui s'appellent La démocratie, avec un A privatif, ça m'intéresse beaucoup. C'est pas spécialement un mentor, j'avais déjà commencé à écrire sur la politique avant de voir ces pièces, mais... je choisis un peu mes maîtres. J'ai un rapport compliqué à l'autorité et je sais que bon, voilà, le regard d'Éric Ruff m'est important parce que c'est le directeur d'une des écoles que j'ai faites dont je me suis dit, ok, toi t'es mon directeur et j'écoute ce que tu me racontes.
Donc on écrit toujours, on joue toujours sous le regard de certaines personnes, pour certaines personnes.
Ouais. Ça, disons que ça compte dans la salle quand je sais qu'il y a un député, La République En Marche. C'est le regard de gens qui me sont importants. Bon, mais après, je pense à Yves Jelan dans le documentaire, un type que j'aime beaucoup, le travail. Voilà, je sais que je parle de lui dans le quatrième épisode. De Je m'en vais, mais l'état de mer, qui est donc une série théâtrale que j'écris au fur et à mesure que le temps passe et qui, j'espère, finira par avoir 6 épisodes et durera 6 heures. Pour le moment, on est au 4e épisode, donc ça dure plus de 3 heures ou 3 heures et demie à peu près.
Et donc chaque épisode correspond à une année du quinquennat de Macron, c'est ça?
L'année avant le début de son quinquennat et 5 épisodes pour les 5 années de son quinquennat. Ouais, donc 6 heures en tout pour 6 heures.
Donc tout à l'heure tu me disais mon but c'est pas de me sentir forcément utile, je me sens pas forcément utile, c'était une de mes questions, mais donc tu te considères pas comme un artiste engagé par exemple?
Non.
Et pourtant d'une certaine manière tu l'es.
Ouais, mais
par contre est-ce que tu te sens libre?
J'ai été militant jeune socialiste de 2016 à 2011. Se taper les marchés le matin, ça c'est être engagé. Parce que quand bien même, peu importe le parti, hein, c'est te rendre compte qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi, qui votent la même chose que toi et avec qui t'es pas d'accord, te prendre des insultes sur un marché, ça c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que de dire quoi que ce soit à des gens sur un plateau dans un cadre où les gens en face n'ont pas la parole.
effectivement.
Où il y a un scandale, si jamais il y a quelqu'un qui prend la parole, mais tu vois, tu peux le rattraper, puisque tu es la personne qui est légitime, tu peux faire une petite blague, c'est assez fastoche finalement. Mais ouais, le travail du militant, pour moi, vraiment je dissocie les deux, et j'ai pas envie du coup de dire que le théâtre... La compagnie Joli Môme fait du théâtre politique engagé quand ils sont sur scène. Et à côté de ça, dans l'espace public, ils font des actions politiques. Ils le font à chaque fois au nom de la même idée. Mais pour moi, c'est totalement différent.
Et par rapport à la place des femmes dans ton équipe,
ouais.
Qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu as à dire ? J'irais même jusqu'à te demander, est-ce que tu es féministe ?
Bon, alors.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Fais gaffe, mon pote. C'est maintenant que ça se corse. Alors, non. Aujourd'hui, je dirais plus je suis féministe. Alors que pendant des années, j'étais au mouvement des jeunes socialistes et je disais, comme tout bon jeune socialiste, je suis féministe.
Ah bon?
Il y avait des t-shirts. Un féministe, ça ressemble à ça. Et avec une flèche pour montrer la tête. Tu vois, c'était écrit sur le t-shirt. C'est toujours les partis politiques, ils adorent les flocages. Et puis, il y a quelques temps, hashtag MeToo, tout ça. Et puis, on découvre que l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes, un mec qui a été président du mouvement entre... je crois, 2011 et 2013, eh bien, il est accusé de viol, de harcèlement sexuel, quand bien même, ouais, quand il y avait un camp jeune socialiste européen, il rappelait au micro tout le monde à l'avant du car, il disait, bon, alors je vous rappelle les règles du consentement, alors à ça, 1, 2, 3, 4, et bah...
Donc il suffit de changer le t-shirt et d'écrire violeur.
Ouais, exactement, ouais, c'est très simple, ouais.
D'accord.
Ou alors, un nom féministe, ça ressemble à ça.
Donc là, tu t'es dit, finalement, se dire féministe, c'est une façade, donc je vais arrêter de le faire.
Bah, moi, je me dis, je vais arrêter de penser que c'est si simple d'être du côté des gentils sur ce sujet-là aussi.
Des gentils ?
Ouais, des gentils, des féministes. Ouais, des hommes qui se disent féministes. Et je vais juste essayer, je vais pas dire que je suis féministe, je vais essayer de pas être trop un connard dans la vie.
Ce qui te donne de l'espoir, Hugues ?
Oh, rien. Rien. Je préfère dire rien. Mais quand j'ai bien dormi, ça va, je suis pas trop malheureux.
Et tu n'en serais pas ici si...
Mon père est directeur de conservatoire. Depuis que je suis petit, il a dirigé différents conservatoires. Aujourd'hui, il est directeur pédagogique d'un CNSM. Et donc, cet environnement familial, musical, voilà, ma mère aussi est dans la musique, elle est intervenante en milieu scolaire. Tout ça a conditionné le fait qu'à un moment, je me mette à faire du théâtre. Enfin, voilà, je suis un bel exemple de reproduction sociale qui a fait un petit schisme à un moment, qui est pas, tu vois, maigre schisme, je suis parti vers le théâtre.
3 livres de chevet.
En ce moment, je lis du Aurélien Bélanger, de Grand Paris, parce que je pense beaucoup aller aux élections municipales parisiennes. La promo 86, Ariane Chemin.
C'est le premier truc que je trouve. Lui, président, que reste-t-il des promesses de François Hollande ? Formidable, hein ? C'est...
Bon, et maintenant, je vais te demander, pour finir, pour vraiment conclure tout ça, je vais te demander de mettre ta perruque.
Ouais.
Et peut-être que te viendra un vers, ou une réplique ou une citation avec laquelle tu aurais envie de conclure cet échange.
Demeure du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. C'est dans Misanthrope, c'est à la première scène, Alceste Philinte.
Ok, merci Hugues.
Mais merci à toi Aurélie. J'ai oublié. Dans mes mentors, je mets Pierre Martin aussi.
Les prochaines représentations de la pièce Je m'en vais, mais l'état demeure de l'auteur, metteur en scène et comédien Hugues Duchesne sont à retrouver avec sa compagnie Le Royal Velours le 25 et 26 janvier à Villeneuve-d'Ascq, le 28 janvier à Saint-Junien, le 1er février à Pantin, le 20 février à Châtellerault, le 6 mars à Valenciennes au Phénix, du 11 au 14 mars à Oullins au Théâtre de la Renaissance et le 26 mars à la Maison de la Culture d'Amiens. C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, une émission proposée par Aurélie Ruby, les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30, et à retrouver également en podcast.